Vous devinerez aisément l'émotion qui est la mienne à devoir m'exprimer en français de surcroît après cette magistrale intervention de Claude. Néanmoins, j'essaierai de vous raconter un fait divers en relation avec, me semble-t-il, le solstice d'été et quelques contes de la Saint-Jean en Soule. Assalegico Carbia est une grotte flanquée au milieu de la face sud-est d'Arnuski qui descend vers la forêt de Suhure. Pendant l'été, moutons et vaches s'y réfugient à l'ombre. Elle est le repère de Alsaiko Herrenchugia ou Dragon d'Alsaï. Manifestement, cette légende plonge ses racines dans la mythologie basque autour de Marie, génie souterrain, ou de Herrenchugue, son conjoint, parfois confondu avec elle. Ce n'est pas sans raison, nous nous posons la question, pourquoi cette légende est-elle liée à cet endroit? En tout cas, elle nous conduit à réfléchir sur le contexte qui a pu lui donner naissance. Nous nous situons dans une zone préhistorique et proto-historique particulièrement riche. Des grottes à peinture pariétale au Suruk et à Suhar et Kamusihig. Mailles de Coralia qui portent des vestiges d'une habitation antique et dont le nom même évoque Marie Alsaï, des enceintes proto-historiques des dolmens. Deux groupes de ces derniers ont été répertoriés sur la route d'Ahinski, deux dolmens du côté de Mendive, deux également du côté de la vallée dite qui monte d'Osuruk. Il semble que ces divers monuments mèneraient vers la grotte d'Assalegi, qui tend donc l'axe Mendive-Osuruk, on bifurquerait par El Segania le col le plus direct et le plus facile vers la grotte comme un point de convergence. Passé la première surprise causée par l'ouverture béante de la cavité et sa superficie, on s'aperçoit que se détachent de l'amas des rochers deux gros blocs. Manifestement, ce sont deux magnifiques monolithes. Le premier est érigé sur un socle rond de blocs de pierre. L'autre monolithe a une couleur blanche jurante, nettement avec la couleur plutôt grisâtre de l'ensemble. D'après les constatations d'un ami ayant fait toute sa carrière dans le génie civil, ce monolithe est en calcaire. Roche inexistante dans les proches alentours, elle serait donc venue de la forêt dite à 4 ou 5 km de là, mais avec un dénivelé de 150 à 200 mètres au moins, et une descente abrupte jusqu'à la voûte de la grotte. Avec les moyens d'aujourd'hui, je ne sais pas comment on le transporterait, me disait-il. Cela me fait penser, toute proportion gardée, à des épisodes de la construction de Stonehenge où l'on a apporté des cailloux, des rochers, des pierres depuis 300 kilomètres ou dans ces eaux-là, quelque chose. Le mystère d'Assalegico Carbia dans le conte et la chanson. Dans notre pays basque, et particulièrement en Soule, la chanson et les contes ont eu une grande importance. C'est à travers eux que s'est forgée, ou du moins développée, en grande partie notre culture. Parmi ces derniers, deux sont fort connus. La chanson « Goisian Goisik Jeikinundusen » que je chanterai à la fin, et la légende de Herrenchugue ou Dragon d'Alsaï. Celle-ci est une légende. Celle-ci est une légende mythologique datant de la plus haute antiquité, mais dont certains détails peuvent rappeler des faits plus récents, même permanents. La première, moins ancienne, à peine quelques siècles du moins en ce qui concerne du texte et de la musique, mais dont certains traits rejoignent aussi les temps primitifs. Ainsi se vérifie dans les deux textes ce que nous relatons plus haut des origines des contes et de leur évolution. Nous le verrons plus loin Voici le texte de la chanson, la traduction plutôt. Je me levai de très bonne heure le matin de mon mariage. Je me vêtis de soie lorsque le soleil parut. J'étais grande maîtresse de maison à midi pile, et jeune veuve lorsque le soleil se coucha. Monsieur Irigaray, mon seigneur, levez la tête. Où regrettez-vous de m'avoir épousé? Non, non, je ne regrette pas de vous avoir épousé, ni le regretterai tant que je serai vivant sur terre. J'avais une bien-aimée, en secret de tout le monde, en secret de tout le monde et connue de Dieu. Elle m'a envoyé un bouquet fait de fleurs rares et qui avait le milieu empoisonné. Pendant 7 ans, j'ai gardé mon mari mort dans ma chambre. Le jour, je le posais sur la terre froide et la nuit, je le prenais entre les bras. Avec de l'eau citronnée, je le lavais un jour par semaine, le vendredi matin. En face de la forêt de Suhure, sur le flanc qui descend d'Ahuski, environ en son milieu, se trouve donc la grotte d'Assalegi. On la dénomme ainsi du nom de la maison construite au pied de la montagne. Voici maintenant la légende de Heren Shugia, ou plutôt la traduction. Les gens du pays perdaient là-bas leurs bêtes et n'en trouvaient pas la trace. Un jour, ils virent un énorme serpent sortir de la grotte pour aller boire. Alors qu'il avait la tête à l'eau, sa queue s'enfonçait encore dans la grotte. Il aspirait les brebis et les avalait d'un coup. Que faire? Or vivait à la maison à Tagi un fils appelé Shibali, certainement chevalier. Il avait été dans l'armée où il avait appris le maniement de la poudre. Il n'avait pas peur des crapauds. Il décida de se mesurer à Heren Shuge. Il remplit de poudre une peau de vache et la fit glisser sur le flanc de la montagne. Shibali monta sur son cheval et s'élança vers la vallée. Il venait à peine de prendre la direction d'Alsaï qu'il entendit après lui au col d'Angaitz comme un bruit de sonnaille. C'était Heren Shuge qui avait avalé la peau de vache et dont la poudre avait pris feu. Descendant par la forêt dite à coups de cœur et avec fracas, il brisait les hêtres. Traversant au Suruk, il gagna la mer et s'y noya. Quant à Shibali, à Tagi, le sifflement et les bruits faits par Heren Shuge changèrent son sang en eau. Il se coucha dans son lit et y mourut. On dit que Heren Shuge avait 3 têtes. Une autre légende dit aussi, certains jours, après avoir bu au ruisseau d'Assalegi, Heren Shuge se planquait face à la vallée. Il étendait sa langue au loin, le soleil disparaissait et la bruine se mettait à tomber. Comme cela pouvait durer quelques jours, il faisait obstacle aux travaux de fenaison. Je signale aussi qu'en passant, que c'est des contes similaires existent en Caucase. Reprenant chacune de ces légendes, on peut entrevoir la réalité qui leur a donné naissance. La chanson semble avoir pour thème un drame de l'amour. Le jeune époux avait auparavant une liaison amoureuse. Son amante, le jour même de son mariage, l'a empoisonné. C'est donc ce que l'on appelle un fait divers, tragique certes. Ce qui peut confirmer que cet événement a réellement eu lieu, ce sont les précisions que nous apporte l'historien Jean de Jorguin, en nous précisant la date exacte, d'après ses recherches, de la date du mariage, c'est que le nom du jeune homme nous est donné, Irigaray, Mujde Irigaray, monsieur d'Irigaray. Ce nom a donc une grande importance pour situer la réalité, mais aussi je vais y arriver,
pas ça.
Mais aussi pour nous apporter une certaine lumière sur la fiction, nous le verrons. Qu'en est-il des Renchugé? Quelle est la réalité? Il nous faut considérer les deux légendes, celles qui concernent les animaux et la météorologie. Mais la question se pose, y a-t-il un lien entre la chanson et Renchugé, tous deux ayant en commun bien des traits relatifs à la mythologie que nous avons relevés en un lieu Alsaï. Dans la chanson, donc, Irigaray, voilà. Dans la chanson, donc, Irigaray, en plus des faits de Jorguin que je citais, la mémoire collective est formelle, est d'Alsaï, ainsi que à Salégué. Mais le lien entre les deux semble devenir plus réel quand nous précisons que la grotte d'Assalégui appartient justement à la maison Irigaray d'Alsaï, ainsi que le Cayolar del Segania, qui est un passage obligé pour aller à cette grotte, et également le lieu de fuite éperdue de Renchugé qui va vers la mort, vers la mer. Alors, de Agathe. À travers une belle métaphore, l'auteur compare le désarroi de cette jeune femme étant tour à tour dame de Irigaray à midi, titre convoité de tant de jeunes filles de l'époque, et devenant brusquement jeune veuve au coucher du soleil. Sa vie a brusquement basculé, comme le soleil au solstice d'été, au moment où juste après l'exaltation solaire, ce dernier allant inexorablement vers la période tant redoutée de l'année. À n'en pas douter, nous sommes dans la grotte au moment de l'une de ses fonctions célestes, c'est-à-dire au solstice d'été. De par son orientation, elle en a certainement d'autres, avec entre autres la lune, et il va sans dire au solstice d'hiver, évidemment avec les astres aussi également. On sait que la lune est très importante pour les périodes de chasse et de pêche, pour éviter de faire des erreurs d'appréciation du gibier qui peut être tué s'il est qui doit être absolument évité d'être tué lorsque les femelles sont pleines, par exemple, parce que les conséquences seraient dramatiques, voire fatales pour toute une communauté. Et cela, avec la lune, on arrivait à se repérer, ainsi que pour la pêche du saumon, entre autres. La métaphore du bouquet empoisonné rappelant étrangement la peau de vache remplie de poudre ingurgitée par le dragon. Alors, la tragique conservation du corps du défunt sur la terre froide, rappelant le fond de la grotte. Nous voilà à présent dans le monde souterrain, autre fonction de la grotte. Pour ma part, j'ai fermé la boucle comme la chanson commençant et finissant par le même mot goïsian, le matin. Charnaterak. Charnatera, selon Land, c'est la joannée populaire feu de la Saint-Jean. Fête de la Saint-Jean ou Charnatera en Soule. La veille, avec le bois et les branches portées par la jeunesse, l'on allume un feu au milieu de la place du village. Tout le monde est présent, enfants, jeunes, adultes et anciens. Lorsqu'on allume le feu, cris et irinsina fusent. Puis, les enfants et les jeunes sautent par-dessus les flammes, les plus hardis étant munis de perches, chacun criant « Belhagile Sahara Koro Era et Taberia Keskuncherba » que brûlent tous les sorciers, y compris ceux à venir, des choses comme ça. Lorsque le feu s'éteint, avec les braises et les cendres, l'on fait une croix, puis tout le monde prend le chemin de la maison. Le matin, un bouquet de fleurs est fixé au-dessus de l'entrée de la maison. Un bouquet de roses est également accroché sur une modeste croix. Sur les murs de la maison et des granges, l'on dépose également un bouquet de branches de noisetiers et d'aubépines, de même que sur les bords des parcelles vitales pour la maison, la vigne, le champ de maïs, le champ de patates, etc. Au lever du jour, tout le monde se dirige vers la rivière et se lave le visage, sans toutefois s'essuyer. Puis, c'est le moment de faire quelques pas dans la fraîche rosée. Alors, ce matin-là, l'on cueille également les fleurs destinées aux guérisons, ainsi que les feuilles de noyer servant à soigner le mal du pied. Enfin, le conte de Echecorteco está en Silla, ou lac de Checortilla, à quelques lieues de la vallée de la grotte d'Assaleghi, toujours dans le massif des Arbailles. Jésus-Christ, donc on dit le juif errant, donc Jésus-Christ venant à passer dans les parages le jour de la Saint-Jean, demanda l'hospitalité à des bergers. Ceux-ci la lui refusant, Jésus-Christ donc maudit le lieu qui s'effondra et d'où en surgit un lac. Depuis, tous les soirs de la Saint-Jean, l'on peut entendre du bord du lac et à minuit, un jeune berger appelant les brebis, la musique des sonnailles et les aboiements du chien. Voilà. Voilà. En langue basque, le lac se nomme Aintzi, et Aintzi est souvent, à un moment donné, le lit de la rivière et le débit le permettant, l'étalement d'un cours d'eau qui forme un lac plus ou moins grand. C'est le cas du quartier Aintzi à Beiri, le lieu asséché depuis longtemps. En ce qui nous concerne, nous sommes en présence de Aintzi, précédé du préfixe de composition est, Esteinse, qui lui donne une idée d'immobilité et de fermeture, comme par exemple Aigo Cluso dans les Hautes-Pyrénées. Le lac d'Estaens, en bout de la vallée d'Aspe, mais en territoire aragonais, les Aragonais l'appelant Ibon de Estaens. Je me permets de vous faire remarquer la curieuse résonance avec Esteinse. S'il en était ainsi, le lac d'Estaens serait un pléonasme pyrénéen au même titre que le Val d'Aran. En outre, les Aspois racontent la même légende qu'en Soul pour ce lieu. Voilà. Je vais me lever. Je vais boire un coup, hein.
Voici un voici, j'ai qui ne de ce n'est pas jamais sain. Voici un maïeta ere. C'est à ce vestite, et qui a gel qui s'ennia. Et c'è candere sa balne de su, et guverdi erdita. Baieta erre, al hargen chagaste, et qui a gorde senia. Mujde irigara yene jauna, alce isadasut buria. Alla sai sudolutu, enne kinne spujatsia. Eze cita sutes dolutu, sure kinne spujatsia. Eze taere dolutu. Missing is sanno pluria. Nic banian mai te chobat, mende ororen isili, mende ororen isili keta, jinko jaunari ageriri. Buke pati gori dita süt, liliara rose ginik, liliara rose eginik eta erdia pusu atri. Aspiurtes ecce quidit gisun illa camera egunas lyrotsian eta gaias bibesuen artian Citruhures ykysten isyn astia legyn batian. Astia negyn batian eta ostia rale goisian.
Une chanson du 17e siècle, j'ai oublié de dire. Il faut que je ne peux pas tout dire non plus à la fois. Et donc, Jean de Jorguin a fait des recherches et ce mariage a eu lieu, si je m'abuse, un certain 8 juillet 1633. Le 8 juillet 1633. Et il prouve cela parce que le père de la jeune veuve a retiré la dot de 1875 livres tournois qu'il avait payé pour partie de la dot de Gabriel de Loitegui, c'est son nom, sa fille, le 8 juillet 1633, c'est ce que je dis. Et 5 ans après, il a donc retiré sa dot. Il faut dire aussi, je me permets Claude, il faut dire aussi que le sort des veuves était dramatique dans ces temps-là, parce que je connais des anecdotes. Lorsqu'un mari, Tchekojauna, un maître de maison décédé, bien souvent, la veuve était expulsée avec ses enfants, en suivant de la maison. Bon, celle-ci avait quand même avait son nom et l'argent, comme quoi parfois il vaut mieux être riche que pauvre malade. Gabriel resta fidèle à la mémoire de son mari pendant une quinzaine d'années. Puis, à l'approche de la cinquantaine, son cœur se laissa attendrir par les galanteries d'un gentilhomme sous le teint un peu plus âgé qu'elle, Henri d'Ahetz, écuyer seigneur des maisons nobles d'Ahetz d'Ordiat et d'Herbis de Musculi, qu'elle épousa en 1648, et je vais terminer ceci. Quant à Gabrielle de Loitegui, elle mourut au château d'Ahetz, donc à Ordiat, le 27 avril 1688, à l'âge respectable de 86 ans, toujours d'après Jourdain. Voilà.
Et des bouquets empoisonnés.
Ah oui, des bouquets empoisonnés. Ah oui.
Mais on a des histoires, des chansons de bouquets empoisonnés. On en a des centaines, enfin je veux dire, dès qu'une femme est jalouse, elle envoie un bouquet empoisonné. C'est pour ça que je suis très inquiet de l'inscription dans l'histoire. Et des premières fiancées, généralement en forme de dragonne, qui disent surtout ne te marie pas. Enfin, c'est des fiancées, hein, qu'on a rencontrées dans la forêt. Le cas de Mélusine, dans la version allemande de Mélusine, c'est un chevalier qui a rencontré une dragonne, une Mélusine, qui lui a dit surtout ne te marie pas parce que tu mourras le jour où tu te marieras. Et tu verras apparaître alors un signe très curieux. Donc ils organisent le repas de mariage, et au moment même du repas de mariage, on voit apparaître à travers le plafond comme ça un pied, et aussitôt, de terreur, parce qu'il sait que c'est le signe, il meurt. Donc j'ai l'impression que là c'est très curieux, cet effort de remettre. Je sais qu'il y a j'ai un collègue qui a fait ça aussi pour des histoires de femmes transformées en cygnes qui sont tuées par un chasseur. Alors il a retrouvé l'endroit exact où la femme transformée en cygne, c'était... Oui, moi je crois que c'est tout à fait l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a un mythe, tu vois, il y a un mythe qui court comme ça, et que de temps en temps dans l'histoire... plus ou moins parce qu'il y a une mort rapide, oui, etc., ça. Au moment du mariage, on estime que ça incarne dans l'histoire.
Mais là, je pense que la grotte Herrenchuge, voilà, et tout font tout un ensemble, c'est pour et ça, oui, qu'il faut...
Il fait pas bon, il faut pas bon se marier, ça, il fait sûrement pas bon d'avoir, avant le mariage, pour un jeune homme, d'avoir une fiancée dragonne, ça c'est sûr, très belle. Et alors que cette fiancée dragonne aussi soit en rapport avec le poison, ça me paraît... ça va toujours très mal, disons. Et ça, ce serait... très intéressant de... On ne peut pas aller en France à un endroit quelconque sans qu'on vous raconte « Mon grand-père, quand il revenait de la foire... » Un jour, il a vu un mouton. Mais c'est mon grand-père. À chaque fois, c'est le grand-père. Mais c'était sur terre. Et on vous montre l'endroit, on vous montre la croix. Mais il y en a 1000 en France.
Oui, le bouc.
Et ce qui est intéressant, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est l'inscription. Et à chaque fois, ils disent, mais je sais très bien, c'est au retour de la foire de Caminel. C'était un soir, et il n'avait pas trop bu. Et puis, il a mis le mouton sur le dos. Et puis, alors, ça devenait de plus en plus lourd. À un moment, mon Dieu, il a dit, mon Dieu, que tu pèses. Et alors, aussitôt le mouton a disparu en disant, heureusement que tu as dit mon Dieu, parce que sinon je t'écrasais de mon poids. Partout en France, mais partout à tel endroit. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est la façon dont un mythe qui court comme ça, ou une légende qui court, s'inscrit alors avec très probablement une toponymie, enfin une topologie qui mériterait d'être vue. Le dragon qui va boire, les géants vont boire toujours à la sortie des grottes. Ils ne guident pas les grottes, mais ils vont boire en s'allongeant. Et généralement, on dit que c'est l'ombre. Dans Goethe, il y a une très belle histoire comme ça, le serpentin vert de Goethe. On voit le géant qui, le soir, quand l'ombre arrive comme ça, c'est l'ombre du géant, il reste toujours comme ça. Mais c'est son ombre qui va boire la rivière. Et c'est vrai que quand on connaît des rochers comme ça, on voit peu à peu l'ombre qui s'approche et on dit, tiens, mais ça se dit encore à la campagne, tiens. Tu vois, c'est un géant comme ça, tu vois, il va boire à la rivière. Enfin, on va aller voir ça de près.
Voilà.
On va aller voir si... Ah, il boit moins à la Saint-Jean, puisque les ombres sont moins longues.
Ah oui.
Mais il a plus soif. Oui.
Saint-Jean tel qu'on l'a vécu ici en Pays
Basque,
est-ce que vous avez pu étudier ailleurs? Est-ce que c'est la même chose?
Oh ben là, non, ça, on a ça partout. Justement, il y a très peu d'éléments dans la description que j'ai entendue là, il y a très peu d'éléments originaux. Très peu. Mais à mon avis, parce que celui qui a fait la description a fait une description où, en effet, il n'a pas recherché des détails, mais alors on a, bon, les plantes, la rosée, hein, que j'évoquais, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut dire que même par rapport à d'autres Saint Jean, c'est une Saint Jean relativement, enfin, banale. Moi, je fais des Saint Jean régulièrement en Provence, où il y a des détails bien plus précis. Par exemple, le matin, quand on passe toute la nuit sans dormir. Alors, il y a des confrères de Saint Jean qui sont armés, qui ont le droit de s'armer. Ils rentrent dans l'église en armes, probablement parce qu'ils sont héritiers justement de l'ordre de Saint Jean, hein, l'ordre de Saint Jean de Jérusalem qui a repris les Templiers. Alors, ils ont le droit d'entrer, ils ont des sortes d'espadons comme ça, ils rentrent dans l'église. Après, on marche toute l'après-midi. Quand on passe à un endroit juste au moment où on commence à apercevoir la chapelle où on va passer la nuit, enfin, près de laquelle on fait le feu où on va passer la nuit, il y a un énorme tas de pierres comme ça, parce qu'on dit qu'un pèlerin y est mort. Et donc c'est un Montjoie, on envoie une pierre. Mais c'est... Alors un peu avant, on voit tout le monde ramasse des pierres, c'est un grand pèlerinage, hein, on est 150 comme ça. Mais alors, par exemple, le matin, tous ceux qui sont endormis comme ça, on a droit de les faire boire à la tuile. Alors, très curieux, c'est-à-dire on prend une tuile creuse comme ça, et puis on leur verse, ça les réveille, ils sont toujours furieux, enfin, ils sont... parce qu'ils se sont endormis, normalement il ne faut pas dormir. Et puis après on fait des galipettes dans les champs. Parce que, on dit, c'est des porteurs, hein, de montagne, et on dit que la rosée de la Saint-Jean, ouais, ouais, va l'empêcher d'avoir des tours de rein en tant que porteur. Voilà. Donc il y a plein d'éléments bien plus précis que ce qu'on a là. Mais je pense qu'en Pays Basque, il y a d'autres,
oui,
Saint-Jean avec des éléments aussi. Ce qu'il faut, c'est à chaque fois, quand on connaît déjà, interroger et puis...
Je vais essayer de traduire. Lorsqu'un enfant a une hernie, pour le guérir, il faut deux gens, dit Johannes. Et le matin de la Saint-Jean, de bon matin, ils vont vers la forêt. Un jeune chêne, hein, debout sans le couper. Les deux Johannes. Et oui, ils font passer voilà, ouais, de part et d'autre, voilà, bon, c'est ça, voilà.
Les deux gens,
et on dit, toi Johanne, et Mac Johanne,
à toi Jean,
mais voilà. Et il faut le faire 10 fois, et au moment de partir, on laisse la chemise de l'enfant suspendue à une branche. Une branche d'arbre.
Alors ça a été filmé dans les années 50 par Giulio Caro Barroca, qui nous avait montré son film. Il est mort maintenant, il y a longtemps. Vous savez, le grand... Alors, hein, donc il nous avait un jour passé un film. C'était difficile au point de vue technique, hein, dans les années 50, pour éclairer la nuit comme ça. Mais enfin, on les voit bien, ils arrivent en plein bois comme ça, sans parler au départ. Hein. Après, ils donnent cet échange-là. Mais il ne faut pas dire un mot. Alors, il y a plein de choses sur la nuit de la Saint-Jean, tous les partout, mais l'eau se transforme en vin, la nuit de la Saint-Jean, mais il ne faut pas y goûter. À minuit, au 12e coup de minuit, l'eau se transforme en vin. Et partout en France, on vous dit qu'il y a deux personnes qui y vont et qui disent à qui l'eau là est devenu. L'eau est devenue oui. Et on entend une voix qui répond et il goûte comme ça et essaye la fin de ta vie. Alors, entre vie et bi et loubi ou le vie, et c'est la fin de ta vie et il meurt aussitôt. Donc cette eau transformée à minuit pile est en fait à la fois, peut rendre immortelle, mais en fait elle est mortelle. Et ça, c'est raconté. Il suffit qu'on interroge sur la Saint-Jean ou que ce soit, on vous raconte l'histoire de ces sources qui transforment. C'est pas un moment évident.
La symbolique, est-ce que vous faites un rapport entre le loup qui retrouve sa peau et le mouvement des âmes?
Oui, mais c'est-à-dire, je fais surtout, le rapport du loup et de la le rapport du loup, de la lumière. Par exemple, quand on le nom même qu'on donne à Saint Jean Baptiste, hein, c'est assez curieux, mais dans la légende dorée, on l'appelle Lucifer. Alors, rassurez-vous, ça veut dire porteur de lumière, point. Hein? Enfin, c'est quand même un nom relativement inquiétant. Bon, donc vous prenez la légende dorée, vous verrez dans tous les noms qu'on donne, il y a plein de noms qu'on donne aux Baptistes, dont, bien sûr, parce que ça a été le, plus qu'un prophète, le premier parmi les prophètes, etc. Donc, Lucifer. Alors ça, c'est une des premières choses. En même temps, il y a un rapport entre le loup et la voix. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Déjà, dans Virgile, quand on dit « il a vu le loup », alors maintenant, pour une femme, quand on dit « elle a vu le loup », c'est elle a perdu son pucelage. Mais c'est pas ça. « Il a vu le loup » autrefois, c'était avoir un tel mal de gorge qu'on ne pouvait plus parler. Et c'est déjà dans Virgile, c'est déjà dans Pline, quand un loup vous regarde, il vous prend la voix. Et vous n'arrivez plus à... Si c'est vous qui le voyez en premier, c'est dans les bestiaires au Moyen-Âge aussi, si c'est vous qui le voyez en premier, il ne peut rien dire. Et au contraire, si c'est lui qui vous regarde en premier, vous ne pouvez pas crier. Alors, ça, c'est donc, ça porte sur le loup, mais c'est toute l'histoire des rapports entre Saint Jean-Baptiste et la voix. Puisque vous savez que Saint Jean-Baptiste, son père, Zacharie, quand il a vu Gabriel, a douté qu'il aurait un enfant. Hein, c'est l'évangile de Luc. C'est, bien sûr, tout ça doit être relu en termes de l'évangile, le prologue de l'évangile de Luc. C'est-à-dire, Zacharie et Élisabeth n'avaient pas d'enfant, ils étaient vieux, et un jour, Zacharie va dans le temple, et là, lui apparaît l'ange Gabriel qui lui dit « tu auras un enfant ». Il dit « mais comment ? Moi j'aurai un enfant, ma femme n'a plus ce que les femmes ont coutume d'avoir, elle est vieille et stérile, et moi aussi, ma tête est blanchie, je ne peux pas avoir d'enfant. » Il dit « mais puisque c'est comme ça, tu perdras la voix. » Et du coup, Zacharie sort en faisant des signes, il est muet, et il ne retrouve la voix qu'au moment où il arrive, et il lui dit « tu l'appelleras Jean ». Et Zacharie ne retrouve la voix qu'au moment où il arrive, en faisant des signes, puisqu'il est muet, à faire comprendre que l'enfant doit s'appeler Jean et non pas Zacharie comme son père. Et dès qu'il est appelé Jean, aussitôt il se met à parler. Donc il y a tout le même rapport qu'on a entre la voix prise puis libérée, on l'a avec le loup et avec Jean-Baptiste. Alors ça joue un rôle important avec dans la maçonnerie, avec l'interdiction de parler, les maux de gorge, les signes sur la gorge, etc. Ceci pour vous rappeler que à la fondation au moins officielle de la maçonnerie en Angleterre, c'est une loge de Saint-Jean, bien sûr, et que les réunions se font toujours, les grands convents se font toujours à la Saint-Jean, qu'il y a des loges bleues qui sont des loges de Saint-Jean, etc. Enfin, il y a eu beaucoup de choses là-dessus. Alors on a discuté pour savoir quel Jean, et moi je dirais que ça importe assez peu, puisque les deux Jean occupent les solstices. Donc alors on a discuté pour savoir si c'est l'évangéliste ou le baptiste, mais même dans les légendes dorées, qu'est-ce qu'on dit ? On dit que l'évangéliste, qui est tout jeune, est mort, mais en fait il n'est jamais mort, Jean évangéliste. Il disparaît un jour et on dit qu'il est quelque part, il est comme Élie, il est quelque part pas mort. Il a été translaté, Rabelais dit, Jean, il a été translaté avec Morgane, avec Arthur, tout ça, dans le royaume où les gens attendent le jugement dernier sans mourir. Élie, Enoch, Arthur, Jean évangéliste. Voilà les translatés. Donc, Or, dans la légende dorée, on dit qu'il a disparu, on ne dit pas qu'il est mort, qu'il a disparu le jour de la naissance du Baptiste. Donc on a un équilibre merveilleux. On a Jean évangéliste qui meurt très très vieux, très âgé, enfin qui meurt, qui disparaît très âgé, et la naissance du Baptiste, de Jean. Très probablement parce que c'est une fête de Janus avec le vieux et le jeune. Hein. Vous savez Janus comment il est biface. On ne peut pas faire mieux. Il s'appelle Jean. Et on a cette évocation des deux Jean. Alors on a énormément de triptyques en peinture comme ça. Hein. On a beaucoup de triptyques où bien sûr on balance les deux Jean. puisqu'ils sont aux deux solstices. Donc là, il y a tout un jeu. Mais pour le loup, c'est, à mon avis, c'est ça justement, le rapprochement peut se faire, enfin, au moins par ça.
Et quand vous dites les ânes, lorsqu'elles quittent le rabloch charnel le jour de la Saint-Jean, elles ne prennent en vol que...
Ça, c'est la traduction dans la Chandogya Upanishad.
Est-ce qu'on dit quelque chose sur la réciproque, les âmes qui se séparent le jour de la Noël?
Alors, les âmes, donc, qui partent le jour de la Noël, puis qui montent pendant 6 mois, vont être libérées, elles. Elles sont libérées, hein.
Il n'y a pas de réincarnation,
hein. Ah non, là, elles sont libérées, elles rencontrent Brahman, et là, c'est le bonheur, c'est le nirvana. Fini le drame de la réincarnation. Alors ça joue, à mon avis, c'est... Et alors, il y a ce qu'on appelle donc la voie des pères, et les pères, ça veut dire de notre... de la rechute chez nous, et puis la voie des dieux. Mais la même chose se retrouve dans les doctrines de Pythagore. Et ça, je peux vous renvoyer qu'à un traité d'un philosophe qui s'appelle Porphyre, qui s'appelle L'Antre des Nymphes, et qui fait tout un commentaire... J'ai fait la réédition de L'Antre des Nymphes de Porphyre. Alors, il fait tout un commentaire sur un texte d'Homère qui dit qu'il y a une grande grotte, mais avec deux ouvertures, une au nord, une au sud. Que par une ouverture passent les dieux, par l'autre passent les hommes. Et toute la démonstration de Porphyre, dans son commentaire de L'Antre des Nymphes, c'est de dire, eh bien, ces deux portes, ce sont les portes solsticiales. Par où passent les âmes? Ça, il y a une bonne édition de L'Antre des Nymphes de Porphyre avec les commentaires. Et c'est Porphyre qui m'avait mis sur la voie, parce que Porphyre dit, Homère dit, il y a devant la grotte, il y a un olivier. Et c'est là que Porphyre dit, c'est normal qu'il y ait un olivier, puisque l'olivier, c'est celui qui retourne ses feuilles au solstice. Mais en même temps, c'est les deux portes des rêves qu'on a dans Homère. Là aussi, vous savez qu'il y a deux portes, les pôles solsticiales, donc Cancer et Capricorne. Et c'est par ces deux portes, nous dit Homère, puis c'est repris par Virgile, sortent les rêves. Mais ce n'est pas les mêmes rêves. Il y en a un, ils ne disent pas à quel solstice d'ailleurs, mais il y en a un, c'est une porte de corne, et l'autre, c'est une porte d'ivoire. Alors la porte d'ivoire, c'est des rêves trompeurs, pas précis. Vous voyez qu'on est toujours du côté de la fumée, si vous voulez. Et la porte de corne, c'est au contraire des rêves très très précis. Et les commentaires, c'est de dire par exemple, mais la cornée, c'est le même nom, hein, cornée que corne en latin, mais la cornée, c'est parfaitement transparent. C'est ce qui nous permet de voir quelque chose de très précis. Tandis que l'ivoire... C'est une substance qu'on amincissait pour faire les lanternes, mais qu'on n'arrivait pas à faire aussi mince. Elle restait toujours bien plus opaque que la corne, qu'on amincissait comme ça aussi, et dont on faisait les lanternes autrefois. Donc il y a toute cette doctrine qui... Je ne suis pas le premier, hein, entre autres il y a des grands spécialistes de la mythologie védique qui ont fait le rapport entre le système pythagoricien de circulation des âmes et les deux solstices. Voilà, on peut renvoyer qu'à un livre Buffière, j'aime pas, bon, qu'importe, ça s'appelle Buffière, ça s'appelle Les Allégories homériques, et qui reprend tous ces textes, justement, sur les deux portes. Mais encore au Moyen-Âge, on représente, moi j'ai reproduit des miniatures du 9e siècle, qui représentent les deux portes par lesquelles le soleil passe. Cancer et au Capricorne, et comme ces deux portes, elles sont ouvertes par des portiers, et les portiers à l'époque c'était des noirs, donc on voit des noirs avec les cheveux frisés comme ça en train d'ouvrir les portes. C'est dans des manuscrits que j'ai reproduit des manuscrits du 9e, les portes solsticiales. Et je pense que c'est, alors il faudrait voir à quelle partie du corps ça correspond, ceux d'entre vous qui font de l'astrologie, où est le cancer ici, hein, et le capricorne? Où est le capricorne et le cancer? C'est ça qu'il faut voir. Le capricorne, c'est bien plus bas, c'est au niveau des jambes, non? Vous savez, dans l'homme zodiacal, bélier, hein, bélier, taureau, puis ça continue comme ça. Enfin bon, c'est les images de l'homme zodiacal qui datent de l'Antiquité. Hein. La mélathésie. Voilà, toutes les portes sont ouvertes. Oui.
Pourquoi les confusions entre le 24, on parle du jour du 24 de la Saint-Jean, et pourquoi la christianine de la famille Noël le 21 et la Saint-Jean le 21?
Parce que le solstice, au temps où est institué Noël, le solstice était au 25. Point. Quand vous lisez Pline, il vous donne la date du solstice, et il vous dit le 25. Alors après, je ne sais pas pourquoi, entre autres, les folkloristes se sont battus en disant mais ça ne correspond pas, mais c'est pas. Pourquoi est-ce qu'on a. Et on a un traité du Hippolyte de Rome. J'ai une de mes étudiantes qui l'a réédité. Et Hippolyte de Rome a écrit un traité. Donc nous sommes au 4e siècle. Des solstices et des équinoxes et de la naissance du Christ et du Baptiste. C'est lui qui fait la démonstration que c'est comme ça. Mais ce n'est pas avant 313 que pour la première fois, c'est en 313 que pour la première fois, c'est Saint Jean Chrysostome qui dit « Nous avons appris de vous, il est oriental lui, hein, nous avons appris de vous autres Romains quelle a été la vraie date de naissance du Christ. » Mais avant, en Alexandrie, avant 313, on fêtait la nativité au 6 janvier. On avait des nativités en avril. Enfin, on a plein d'autres dates de nativité. Vous avez ça dans... comment est-ce qu'il s'appelle ? Enfin bon, il y a un auteur qui donne les autres dates de la nativité.
Et en fait, le solstice d'hiver...
Oui.
C'est le jour où les jours commencent à allonger. Ce n'est pas le 21. Souvent, c'est le 23 ou le 24.
Et oui.
C'est beaucoup plus près du jour officiel de Noël.
Oui, c'est ce qu'on dit. On dit, oui, mais enfin, c'est non, mais les oui, mais déjà dans l'Antiquité, on calculait le jour pile. On le connaissait, le solstice. Dans les calendriers, même primitifs romains, vous avez solsticium. Hein. Il n'y a pas d'hésitation là-dessus. Il y a des calculs, je dirais presque à l'heure près, hein. Il y avait quand même, quand Sosigène s'occupe de faire le calendrier à César, qui lui donne les conseils, c'est un Alexandrin qui connaît parfaitement. Hein, il connaît parfaitement le jour. Donc, après que populairement on commence à attendre, en disant, bon, à partir de là, etc., Pline n'hésite pas, il donne au jour près les équinoxes, etc. Hein. Non.
L'allongement, ça n'est pas le 21. C'est
oui.
Le jour le plus court, c'est le 21. Mais l'allongement, il y a deux ou trois jours où oui. La durée est la même.
Oui, ouais. Ou du moins, c'est très difficile de distinguer.
D'après les calendriers,
oui.
D'après les heures.
C'est... Oui, on le voit. Puis il y a un petit décalage entre coucher, lever, etc.
Oui,
bien
voilà.
Sûr.
J'ai fait aussi une remarque. Ce qui m'étonne, c'est que les ethnologues et les anthropologues, à ma connaissance, ne l'ont jamais fait. Et je crois
qu'il y a ce. Nobotis, parfait.
Au moins pour les Basques. C'est que bon, Noël, dans tous les pays de tradition judéo-chrétienne, chacun dans sa langue, évoque donc la naissance du Christ.
Nathalie, oui.
Eh bien, pas au Pays Basque. Les Basques, eux, et avec quelques rares populations scandinaves du côté de l'Arctique, les Basques n'appellent pas Noël, c'est-à-dire la naissance du Christ, mais le jour nouveau est
Guberi.
Et ça, c'est très. Je trouve que c'est très important et je ne comprends pas comment on a négligé cette. Ce fait-là, parce que ça démontre la haute antiquité.
Oui. C'est en deux, donc jour nouveau.
Oui.
Oui. Égou, c'est le jour. Et Guberi, c'est le jour.
Et c'est très curieux que personne n'ait jamais fait cette remarque.
J'essaie de voir un peu, parce que de toute façon, Noël est inscrit toujours dans le cycle des 12 jours. Hein. Donc, en effet, on compte à partir de Noël, on comptait entre autres les 12 jours qui vont aller jusqu'au 6 janvier, où il y avait toute une série de divinations, hein, entre Noël et le 6 janvier. Et alors, il me semble qu'il y a aussi je ne sais pas si c'est pas les Bretons où il y a déjà cette notion de jour, mais parce que c'est inscrit dans le cycle. Faudrait que je vois. Faudrait que je vois si il me semble que j'avais vu cette histoire de jour. Oui, jour nouveau. C'était la fête. Alors il y avait une fête. Ce qui prouve d'ailleurs que dans le système romain, d'une part, on savait que c'était le 25 au temps de Pline, mais on savait aussi qu'il y avait eu un moment où c'était le 21. Tout ça, vous savez, c'est très simple, c'est qu'il n'y a pas 365 jours un quart dans l'année. Donc, peu à peu, il y avait des décalages. Et vous savez que, en fait, le solstice d'hiver était pratiquement au 13 décembre. Et tout le monde le savait. Au 13 décembre, les jours les plus courts, donc d'où la Saint-Cluce, les jours croissent du saut d'une puce, c'est parce que c'était vrai, parce qu'il y a un petit décalage, étant donné que le 360 jours en quart, ça ne marche pas. Donc peu à peu, ça s'était décalé, d'ailleurs à partir du 25, et c'était remonté du 25, et on a été obligé après, puisque c'était le 21, de rajouter en 1562, vous savez que le lendemain d'un jour, on a compté le lendemain, c'était en septembre, je crois, en octobre, on a coté le lendemain 13 jours plus tard. On a supprimé 11 jours. Au moins en Espagne, en Italie, en France, pas en Angleterre. En Angleterre, ils ont continué avec ce décalage. Mais tout le monde savait qu'il y avait donc ce décalage. Et donc on savait qu'il y avait ce décalage et que. De sorte que, par exemple, il y a des endroits où on voulait que la crèche soit éclairée par le soleil à midi, eh bien, on savait que c'était pas le soleil. Si on voulait que ce soit le soleil solstitial, on savait que c'était le 13. Et dans les anciens, vous prenez les très rigueurs du duc de Berry, vous avez un décalage. C'est donc un calendrier, hein, les très rigueurs du duc de Berry. Vous avez ce décalage de 11, 12 jours. Qui est connu, qui est respecté. Il y avait. Alors on fait des expériences.
Alors, on a dit la croyance populaire que les jours augmentaient dans son opus à la Sainte-Luce.
Oui, à la Sainte-Luce. Ça date du temps, ça date d'avant 1562. C'est-à-dire de la réforme du calendrier par Grégoire, ce qu'on appelle le calendrier grégorien. Jusqu'à présent, on était dans le calendrier julien, que les Russes ont conservé. Que les orthodoxes ont conservé. Les orthodoxes, on peut. Vous allez en pays orthodoxe, vous avez leur Noël, 12 jours après le nôtre. Puisqu'eux n'ont pas fait ce. En 1612, en 1613, meurt le 23 avril Cervantes et Shakespeare. Mais c'est un 23 avril Cervantes. C'est la même date que pour nous. Et Shakespeare, il meurt le 23 avril, mais 12 jours plus tard. C'est quand même, ça fait surprenant. Hein. Ça fait surprenant.
Le 13 à 25 aussi, à 12. Non
oui, ouais. c'était le... Alors, le hasard veut que ce soit l'équivalent des 12 jours. C'est-à-dire des 12 jours de raccord entre l'année lunaire et l'année solaire. Puisqu'il y a 11 jours 8 exactement, mais on ne compte pas les décimales. Hein. Il y a 11 jours 8 de décalage entre 12 lunaisons et 364 jours et quart. Et généralement, on a estimé que ces 12 jours, c'était justement ces jours de raccord. Alors, ils sont embêtants ces jours de raccord. On ne sait pas que... C'est très embêtant, parce que si vous voulez, vous comptez les lunes. Puis quand vous arrivez à 12 lunes, eh bien, pour terminer l'année, il faut encore 12 jours. Alors, c'est... Faut trouver un système où ces 12 jours, on les compte et on les compte pas. Alors généralement, qu'est-ce qu'on fait un peu partout? On fait une petite boucle de jours. Je trouve que la meilleure démonstration, c'est avec une ficelle ou avec un collier. Vous prenez un collier, vous faites comme ça. Avec une boucle de 12 jours ici. Alors vous avez 354 jours, donc 12 mois lunaires, et puis hop, là vous tournez comme ça. Et c'est pour ça que tout ce qu'on fait dans cette période des 12 jours, c'était les fêtes des fous, c'était les choses à l'envers, puisqu'on était dans un monde qui tourne dans un, dans un monde dont le temps tourne à l'envers. Mais ça, ça supposerait qu'on sache que le temps va dans les deux sens. Et pour l'instant, on est presque tous persuadés, sauf les atomistes qui commencent à avoir des soupçons sur le temps. Il n'y a que Hawkins qui commence à avoir des soupçons en disant ça, ça va dans l'autre sens. Voilà, je crois qu'il y a une dame aussi qui va nous rappeler que le temps se gagne pas. Oui.